La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pour une nouvelle semaine afin de décortiquer ensemble l'actualité locale qui se poursuit malgré cette période de reconfinement approximatif. Ce soir, c'est Léo qui nous a emmenés du côté d'une librairie spécialisée Azu Manga. Comme son nom l'indique, un spécialisé bien évidemment dans les mangas en tout genre. Mais avant ça, on voulait vous proposer un format un peu particulier aujourd'hui, puisque plusieurs sujets que nous avons abordés dans la Covidienne la semaine dernière ont eu des suites, nous estimions intéressant de vous en reparler succinctement, sans pour autant y consacrer une émission pleine et entière. Et Léo, je te laisse donc revenir sur la conférence de presse qui avait été donnée par le CHU.
Merci Thibaut. Effectivement, mercredi dernier, le 4 novembre, j'avais réalisé une captation sonore de la conférence de presse donnée par la direction du CHU d'Angers autour de l'organisation de l'établissement face à la seconde vague de coronavirus. Il s'agissait d'un discours somme toute assez rassurant et, effectivement, presque dans le même temps, un communiqué du syndicat sud du CHU donnait un tout autre discours, quelques morceaux pêle-mêle dans le communiqué qui a été publié, des secteurs presque en rupture car transformés en unité Covid, un personnel épuisé et parfois positif au coronavirus mais qui continue à travailler car asymptomatique, les effets de 150 suppressions de postes de soignants en 2018-2019 qui commencent à se faire ressentir, en tout cas qui se font plus ressentir en cette période de pandémie, des carences d'infirmières et d'aides-soignants, et enfin au niveau de la réanimation, les formations d'urgence qui ont été dispensées se révèlent insuffisantes puisque ces soins très particuliers nécessitent plusieurs mois d'une formation très spécialisée et une certaine expérience de terrain pour être réalisée sans accroc. C'était le premier point et Thibaut, je te laisse poursuivre avec Vincenzo.
Tout à fait, oui. Donc la semaine dernière, je m'étais rendu au tribunal d'Angers afin d'assister au délibéré concernant l'exécution du mandat d'arrêt européen à l'encontre de Vincenzo Vecchi, qui est donc un militant italien qui avait été arrêté par la police en France l'année dernière pour des manifestations qui s'étaient déroulées il y a 20 ans en Italie, et il risquait notamment 10 ans de prison en Italie pour un délit qui n'existe pas dans le droit français, qui est celui de dévastation et saccage, hein, qui est un délit qui avait été exhumé par la justice italienne, qui est une loi qui a été promulguée par Mussolini dans les années 30. En termes de justice, on est donc pas mal, et la cour d'appel avait estimé que cette loi spécifique à l'Italie n'était pas valable en France, et donc n'était potentiellement pas valable non plus en droit européen. Il restait donc a priori juste à avoir une nouvelle audience à la fin du mois pour déterminer un peu des suites, et on l'espérait, le comité de soutien l'espérait, de la fin de cette affaire. Notamment dans Le Monde, une tribune menée par certaines personnalités, beaucoup d'universitaires, des personnes autour du droit, deux anciens ministres de la justice également, hein, Christiane Taubira et Marie-Lise Le Branchu, avaient signé dans une tribune qui appelait à rester vigilant concernant les droits des pays démocratiques, hein, qui ne sont pas à l'abri de dérives de politique pénale d'autres États, et ils n'ont pas été entendus puisque finalement il s'est avéré que on avait appris que l'avocat général avait décidé de se pourvoir en cassation et que la cour de cassation devrait donc soit valider l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, soit renvoyer une nouvelle fois ce cas devant une cour d'appel pour la troisième fois consécutive. Voilà, donc cette histoire n'est pas finie, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est une décision qui est assez étonnante, qui a surpris le comité de soutien et qui vont donc continuer à lutter pour faire valoir les droits de Vincenzo Vecchi dans cette affaire. Et Léo, je te relaisse la parole.
On a du nouveau du côté de l'Université d'Angers. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, s'était rendu le 23 octobre sur le campus de Belle-Baye pour discuter des nombreux problèmes de l'Université d'Angers. Manque de logements étudiants, sous-dotation et loi de programmation de la recherche. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, un petit peu d'autopromo, je vous invite à écouter ou réécouter le podcast de l'émission du 28 octobre sur le site internet de Radio Campus Angers, rubrique La Rédac et le Sous-marin. Et le dit projet de loi vient d'être examiné par le Sénat. Il est aujourd'hui entre les mains de la commission mixte paritaire, composée de députés et de sénateurs, afin de s'accorder sur un compromis final. Et donc la nouvelle chose, c'est qu'une centaine d'universitaires déjà mobilisés contre la LPR ont réagi aux apports du Sénat à travers un appel intitulé « Pour la défense des libertés académiques ». Il dénonce notamment l'insertion dans le texte de loi d'un article formulé ainsi, je cite, « les libertés académiques s'exercent dans le respect des valeurs de la République. Un ajout qui fait sans doute écho aux déclarations de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui avait parlé des ravages que faisait l'islamo-gauchisme à l'université, parlant même de gangrène des sciences sociales, un concept entre guillemets assez flou qui n'a aucune définition précise et qui menace la liberté de l'enseignement supérieur.
Merci Léo. Quant à nous, on se retrouve juste après Sir Joe Cotterman and Free Soul, et le titre c'est Give Me Back My Freedom.
Non essentiel par le gouvernement, les librairies ont dû à nouveau baisser rideau en ces premiers jours de confinement. Nous rencontrons aujourd'hui Romain Olivier de la librairie Azumanga d'Angers. Elle fait partie de l'ALIP, réseau de 50 librairies indépendantes des Pays de la Loire, qui a mis en place un système de click and collect pour assurer un niveau d'activité minimal et satisfaire les férus de lecture. Bonjour Romain.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a poussé à exercer cette profession? Pourquoi cette passion pour le manga?
C'est une passion que j'ai depuis tout jeune. D'abord passionné de bande dessinée franco-belge, puis l'histoire a fait que petit à petit je me suis passionné pour le manga jusqu'à devenir responsable de boutique, et puis là ça fait 10 ans aujourd'hui que la librairie Azumanga a ouvert, donc où j'ai créé ma propre boutique.
Vous êtes la seule boutique spécialisée en manga de la ville et voire même du département?
Alors pas du département mais de la ville, oui. On est la seule boutique spécialisée en manga du département. Ouais.
Comment est-ce que vous définiriez le manga ? Est-ce qu'il s'agit de lectures plutôt réservées à des enfants, des ados, ou existe-t-il des livres destinés aux adultes ?
Alors le manga a beaucoup évolué depuis les années 90, hein, depuis que ça a commencé. Le premier manga forcément était destiné aux ados, hein, on a commencé avec Dragon Ball, mais on a aussi commencé avec Akira, qui est un manga qui est plutôt adulte. Donc en fait, le manga est connu pour les ados, hein, c'est ça qui le fait tirer vers le haut, on va dire, mais il en existe en fait énormément. Aujourd'hui, on a une vraie diversité, hein. Nous, on a plus de 7000 mangas dans la boutique. Donc oui, il y en a pour tous les goûts, et il y en a forcément pour les ados, mais il y en a aussi pour les adultes.
À partir de quand la France a-t-elle commencé à lire des mangas ? Y a-t-il eu un vrai tournant avec des séries qui ont eu des succès mondiaux ?
Alors bah oui, c'est ce que je disais, donc ça a commencé dans les années 90 avec Dragon Ball et Akira, mais en fait il y a eu un vrai tournant dans les années 2000 où en fait les éditeurs se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de titres qui existaient au Japon, et donc on a rattrapé notre retard dans les années 2000. Et ce qui a donné lieu à l'ouverture de librairies manga justement en France. Et le manga aujourd'hui est le secteur qui tire vers le haut en fait tout le secteur de la bande dessinée, puisqu'il a plus de 30% du marché. Et puis c'est un secteur qui continue de progresser avec des nouvelles licences très connues et qui font lien aussi avec les nouveaux, comment dire, les. Tout ce qui est Netflix. En fait, il y a un vrai lien qui se fait entre les deux. Et c'est ce qui fait aussi que le manga continue de fonctionner.
Et est-ce que, d'une certaine façon, les mangas animés pourraient prendre le relais des mangas papier en cas d'essoufflement de la librairie ou même du papier en général ?
Alors non, pas vraiment, parce que en fait, les animés, en général, sont des adaptations de mangas. L'origine est bien papier. Donc pour avoir beaucoup d'animés, en fait, il faut avoir beaucoup de mangas. Et les Japonais, de toute manière, n'arrêteront jamais de lire du manga. Non, c'est le contraire. Hein. C'est vrai que beaucoup de gens ont accès facilement aux animés aujourd'hui. Hein, c'est le cas avec Netflix. Mais en fait, l'origine est bien du manga. Alors, bien sûr, des fois, il y a des animés qui ne sont pas des mangas à la base. Mais c'est assez rare.
Dans votre boutique, à Anzu Manga, vous proposez uniquement des mangas ou alors d'autres produits culturels liés à la culture japonaise ?
C'est vrai qu'on propose quand même presque 90% de livres qui sont des mangas. Mais en fait, on a essayé de développer beaucoup de livres autour de la culture japonaise. Donc des livres de voyage, des livres jeunesse, des romans, des livres pratiques de cuisine. On a un peu de tout, en fait. Des livres qui sont autour du Japon, parce qu'on s'est rendu compte très très vite, en fait, dès l'ouverture, qu'il y avait une demande du public. Parce que quand on lit des mangas, forcément, on est ancré dans la culture japonaise, et donc ça donne lieu à des intérêts pour cette culture.
Il y a une quinzaine de jours, vous avez lancé le prix Mangalu 2020-2021, oui, qui permet aux collégiens de se familiariser avec les mangas. Le prix est-il maintenu pour cette année ? Est-ce que vous avez réussi à l'adapter à la situation que nous vivons aujourd'hui ?
Alors ça n'a pas été simple. Ça nous tenait à cœur de continuer à faire le prix Mangalu. C'est un prix qu'on fait quand même depuis quelques années maintenant, avec une quarantaine de collèges qui nous suivent. Alors, on l'a mis en place là, mais c'est vrai que le second confinement, en fait, chamboule un peu tout. Mais il est bien en place. Les collégiens vont commencer à pouvoir le lire, toute la sélection. Et on espère qu'il y a beaucoup d'établissements qui vont quand même pouvoir venir, malgré la situation actuelle.
Effectivement, la seconde vague de coronavirus est là et le gouvernement a décidé de fermer les commerces non essentiels afin de limiter la circulation du virus. Comment avez-vous réagi à l'emploi de ce terme non essentiel ?
Alors je sais que beaucoup considèrent le livre comme étant essentiel. Après, nous on est dans une situation aujourd'hui complexe, c'est-à-dire que tout le monde au final travaille, mais seuls les commerces sont impactés par cette situation. Et on le regrette vraiment parce que la communication est assez mal passée, parce que beaucoup de gens pensent qu'on est complètement fermé, Alors qu'en fait, non, on arrive quand même à faire du click and collect. Ça veut dire que les gens peuvent venir à la boutique, rester au pas de la porte, mais bien réserver leur titre avec ce système-là, quoi. Maintenant, la situation, voilà, elle est compréhensible, mais on se sent un peu seul, on va dire, dans ce système, puisque tout le monde travaille, donc beaucoup de gens n'ont pas la pression d'être en confinement, quoi.
Vous aviez déjà eu recours à ce dispositif de click and collect lors du premier confinement entre la mi-mars et la mi-mai ?
Alors oui, mais en fait, vu que les informations, encore une fois, n'étaient pas très claires par rapport au gouvernement, en fait, on l'a mis en place que vers la fin du confinement, puisqu'il n'y a jamais eu de texte précis qui nous autorisait, en fait, à faire ce système-là. Là, en fait, par rapport au deuxième confinement, ça a été dit tout de suite. Sauf qu'en fait, dans la tête de beaucoup de gens, et ce que je comprends, on dit que les magasins sont fermés, donc ils ne viennent pas. En fait, il y a une incompréhension qui se fait par rapport à ça, assez regrettable, parce que en fait, beaucoup de gens croient que vraiment qu'on n'est pas là, qu'on ne peut plus les servir. Pour l'instant, ça nous impacte quand même vraiment, quoi. Alors qu'on est bien là, on a essayé de faire des permanences, donc 4 heures par jour. Donc on est bien là pour nos clients, pour les lecteurs.
Comment vous vivez-vous personnellement cette situation si particulière ?
Bah c'est dur à vivre. C'est sincèrement, par exemple, hier soir, je suis parti de la boutique, il était 5h30, j'ai croisé un nombre de voitures incalculable. Alors que le centre-ville est complètement mort. Et ça, c'est très dur, en fait, psychologiquement à vivre. Nous, on est là, tous nos bouquins, et on essaye de communiquer à travers les réseaux, comme Facebook, tout ça. Mais voilà, c'est pas une situation facile.
Vous l'avez mentionné à l'instant, vous organisez des permanences à la boutique pour retirer les commandes.
Oui.
Quel est le sort des autres salariés de la librairie ? Vous vous relayez pour le traitement des commandes et éventuellement vous bénéficiez d'une aide, du chômage partiel ?
Comme pour le premier confinement, il y a du chômage partiel. Voilà, j'ai deux salariés que j'ai mis en chômage partiel. Et mon autre salarié reste avec moi, en tout cas pour l'instant. On va voir comment on va évoluer le confinement. En fait, on reçoit les nouveautés comme en temps normal. Donc en fait, on a du travail depuis en tout cas ce début de confinement. Donc on traite nos cartons, on traite aussi toutes les nouveautés là qui arrivent. Pour l'instant, on a du travail pour deux. Donc on va viser au fur et à mesure. En tout cas, c'est sûr que mes deux autres salariés, oui, ils sont en chômage partiel.
Nous l'avons mentionné en début d'entretien, Azumanga est membre de la LIP, réseau des librairies indépendantes des Pays de la Loire. Quels sont les objectifs de ce réseau, en quelques mots ?
Alors, l'objectif, en fait, c'est la région qui soutient en fait les libraires indépendants des Pays de la Loire. En rentrant dans ce réseau, on est soutenu par la LIP. Et puis, ce qu'a mis en place la LIP, qui est assez bien, c'est qu'il y a une sorte de plateforme de réservation pour les libraires à moindre coût. Et qui nous permet justement de ne pas forcément avoir un site internet dédié, mais un site justement où on est tous rassemblés et où les gens justement de la région peuvent trouver leur bonheur via cette plateforme.
J'imagine que la période des fêtes constitue un temps fort de votre librairie. Quelles sont vos attentes avec cette période qui arrive ? Vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste ?
Bah, la seule chose que j'espère, c'est que le confinement ne va pas continuer jusqu'au mois de décembre. Si ça continue le mois de décembre, là, on est en péril, quoi. On est vraiment dans une situation qui va être tendue. Et je pense pas forcément que les libraires, hein, tous les commerces indépendants et aussi les chaînes. Hein, c'est une situation qui pourrait vraiment nous mettre en péril. Donc on espère que le mois de décembre qu'on pourra rouvrir dès début décembre.
Vous sentez qu'il y a un élan de solidarité avec et même entre les commerçants indépendants d'Angers et de ses alentours ?
Pour les peu de commerçants que j'ai pu croiser, oui, on est soudés. Moi, je suis à côté de... de deux libraires, donc Myriagon et le repère des héros, bah oui, on se côtoie régulièrement pour savoir comment ça se passe. En fait, tous nos collègues un peu autour de la culture et les loisirs, donc Tarmac, Sortilège, voilà, on essaie d'être reliés. Mais oui, on a peur de l'avenir. Hein.
Et pour les mois à venir, est-ce que vous réfléchissez à organiser d'autres projets liés à la culture japonaise et au manga, des projections, des conférences, éventuellement la venue d'auteurs, des séances de dédicaces, ce genre de choses?
Alors là, c'est un peu tôt pour le dire, mais oui, on va essayer de faire des choses. Là, déjà, avant le confinement, on a fêté nos 10 ans avec nos clients. On a essayé de marquer le coup comme on le pouvait, parce qu'avec les gestes barrières, on était un peu limités. Mais on espère qu'au printemps, oui, on pourra essayer de faire des choses au niveau de la culture à Angers. Ouais.
Comment vous pourriez donner envie à celles et ceux qui ne lisent pas de manga de découvrir ce type de lecture?
Alors bah déjà, j'invite tous les collégiens qui ont le prix manga lu dans leur collège à venir lire la sélection de cette année, hein, parce que c'est une lecture gratuite et une lecture plaisir. Le manga, écoutez, y en a vraiment pour tous les goûts. Et je pense qu'il faut sauter le pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, la lecture, on va dire, inversée, pose souci. Mais au final, c'est pas plus compliqué qu'une autre lecture. Il s'agit juste, sur quelques pages, de faire un petit effort. Et après, ça vient tout seul, en fait.
Et quelle lecture vous pourriez conseiller à nos auditeurs et auditrices pour les faire s'évader un petit peu dans cette ambiance, somme toute, assez pesante?
Bah écoutez, on a reçu un premier titre, là, un tome 1 qui est sorti au mois de septembre et qui est vraiment sympa, qui s'appelle Spy Family, qui est entre, on va dire, Mr. and Mrs. Smith, le film, et Les Indestructibles. Donc une sorte de famille, on va dire, parfaite, qui en fait n'est pas du tout normale, si on peut dire ça. Donc avec un père espion, une mère... qui est tueuse à gages, et une petite fille qui arrive à lire dans les pensées de ses parents. Donc ça donne un côté très très sympa et une histoire plutôt légère et qui fait du bien.
Merci Romain, on vous donne rendez-vous sur le site d'Azumanga pour enrichir votre bibliothèque de manga pendant le confinement. Vous pouvez retirer vos commandes sur place du mardi au vendredi entre 12h et 14h, puis de 16h à 18h. Et le samedi entre 14h et 18h. N'hésitez pas également à consulter le site librairie-alip.fr pour découvrir les autres membres du réseau et soutenir vos libraires de proximité. Merci Romain et bon courage.
Merci à vous.
18h25 sur Radio Campus Angers, toujours dans la Covidienne, et c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci à Léo pour sa participation. Ce soir, retrouvez des rediffusions de l'Artichaut ainsi que de Jauge Réduite, et enfin, non pas des rediffusions, mais des émissions toutes fraîches, envoyées depuis leur maison par nos bénévoles les plus assidus. C'est lundi, c'est donc Reggae Dub en compagnie de Mélodub, suivi d'un nouvel épisode de Bamboo Station. Très belle soirée à toutes et à tous sur nos ondes. On se retrouve dès demain. D'ici là, portez-vous bien.